From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 178th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This session is being carried to thousands of meeting houses throughout the world. Music for this session will be provided by a priesthood choir from the Provo Missionary Training Center. Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct tonight's priesthood session.
Brethren, we welcome you to the General Priesthood Session of the 178th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. These services are being relayed by satellite transmission to holders of the priesthood gathered in many locations throughout the world. Singing during this session will be furnished by a priesthood choir from the Provo Missionary Training Center under the direction of Douglas Branchley with Clay Christiansen at the organ. We shall begin this priesthood session with the choir singing, "Call to Serve." The invocation will then be offered by Elder David S. Baxter of the 70.
Our beloved Father in heaven,
Père céleste bien-aimé,
Nous sommes infiniment reconnaissants, nous, tes fils, d'être réunis devant toi, dans les assemblées, à travers les continents et les îles de la mer. Père, nous t'aimons tant. Nous sommes si reconnaissants de l'amour que tu as pour tous tes enfants, du grand plan de salut que tu as conçu pour que nous puissions tous être heureux. Nous te remercions de cette magnifique Église, des prophètes et des apôtres, de cette cause noble à laquelle nous consacrons notre cœur, pour les belles œuvres que fait l'Église à travers les pays du monde et pour le privilège que nous avons de d'y servir. Nous te remercions du don et du sacrifice expiatoire, la vie de ton Fils divin, notre Sauveur, de son amour manifeste pour toi et pour tous tes enfants. Nous l'aimons aussi. Notre plus grand désir, Père, est de devenir davantage semblable à lui, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Nous sommes si reconnaissants de la bonté des femmes de notre vie, les mères, les femmes, leur influence bénéfique nous a touchés tant. Sans elles, nous serions moins bons, nous les hommes. Père, nous nous engageons vis-à-vis de toi à faire davantage pour aider chacune de tes filles à avoir une meilleure opinion, une meilleure estime d'elles. Nous voulons être de meilleurs hommes. Nous te prions de nous aider. Tandis que nous écouterons, réfléchirons et agirons selon ce que nous aurons entendu, nous te remercions de tes bénédictions. Que nous savons nous être donnés si nous nous tournons vers toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le chœur va maintenant chanter « Seigneur, je te suivrai ». Après ce chant, nous entendrons Richard J. Scott du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi par Jay Jensen de la présidence 70. Puis nous entendrons James G. Emula des 70. Le chant par le chœur.
Love thee, walk the
My dear brethren,
mes chers frères, nous sommes réunis de par le monde dans la merveilleuse fraternité de la Sainte Prêtrise de Dieu. Combien nous sommes bénis de faire partie du très petit nombre d'hommes sur la terre à qui a été confiée l'autorité d'agir au nom du Sauveur, pour être une bénédiction pour les autres par l'utilisation juste de sa prêtrise. Je me demande, frère, combien d'entre nous méditent sérieusement sur l'honneur inestimable que nous avons de détenir la prêtrise d'Aaron et la prêtrise de Melchisedec. Quand nous considérons le petit nombre d'hommes qui ont vécu ici-bas et reçu la prêtrise, et le fait que Jésus-Christ leur a donné le pouvoir d'agir en son nom, nous devons éprouver une grande humilité et une grande reconnaissance pour la prêtrise que nous détenons. La prêtrise est l'autorité d'agir au nom de Dieu. Cette autorité est indispensable pour accomplir son œuvre sur la terre. La prêtrise que nous détenons est une part de l'autorité éternelle de Dieu qui nous est déléguée. Si nous sommes loyaux et fidèles, notre ordination à la prêtrise sera éternelle. Cependant, le simple fait de conférer l'autorité ne suffit pas à accorder le pouvoir de l'office. Notre capacité d'exercer le pouvoir de la prêtrise est fonction de notre dignité, de notre foi au Seigneur Jésus-Christ et de notre obéissance à ses commandements. Un fondement sûr de connaissance de l'Évangile accroît de beaucoup notre capacité d'utiliser dignement la prêtrise. Le modèle parfait d'utilisation de la Sainte Prêtrise est notre Sauveur Jésus-Christ. Il a exercé son ministère avec amour, compassion et charité. Par sa vie, il a donné un exemple sans pareil d'humilité et de pouvoir. Les plus grandes bénédictions venant de l'utilisation de la prêtrise découlent du service que nous rendons avec abnégation, en suivant son exemple, en détenteur fidèle et obéissant de la prêtrise. Nous pouvons accéder à un grand pouvoir. Quand cela nous est demandé, nous pouvons exercer le pouvoir de guérison, de bénédiction, de consolation et de conseil, en suivant fidèlement les murmures discrets de l'Esprit. Je vous demande d'imaginer quelques instants que vous et moi soyons seuls, dans un endroit tranquille, où l'ambiance permet d'être dirigée par le Saint-Esprit. Certains d'entre vous ont périodiquement des entretiens personnels de dignité, tandis que d'autres ont des appels où cela arrive rarement. Imaginez que nous allons avoir un entretien privé de prêtrise dans les minutes qui vont suivre. Pendant que nous sommes ensemble, je vous demande de méditer sur votre dignité personnelle, à utiliser l'autorité sacrée que vous détenez. Je vous demanderai aussi de réfléchir à quel point vous utilisez régulièrement votre prêtrise pour faire du bien aux autres. Mon intention n'est pas de critiquer, mais d'aider à accroître les bienfaits qui découlent de votre utilisation de la prêtrise. Vos pensées intimes et personnelles favorisent-elles la direction par le Saint-Esprit? Ou aurait-elle intérêt à ce que vous fassiez le ménage à fond? Vous édifiez-vous l'esprit par des lectures inspirantes? Ou avez-vous succombé à la tentation de consulter des ouvrages ou des sites internet pornographiques? Évitez-vous scrupuleusement de consommer des stimulants et des produits qui entrent en conflit avec le but de la parole de sagesse? Ou avez-vous fait personnellement des exceptions dont vous vous justifiez? Veillez-vous très attentivement à ce qui entre dans votre tête par ce que vous regardez et entendez afin de vous assurer que ce soit sain et édifiant? Si vous êtes marié, êtes-vous fidèle mentalement et physiquement à votre femme? Êtes-vous loyal à vos alliances du mariage? Êtes-vous loyal à vos alliances du mariage en n'ayant jamais avec une autre femme une conversation que vous ne voudriez pas que votre femme surprenne? Êtes-vous gentil avec votre femme et vos enfants et les soutenez-vous? Aidez-vous votre femme en faisant une partie des tâches ménagères? Prenez-vous l'initiative d'activités familiales telles que l'étude des Écritures, la prière en famille, la soirée familiale. Votre femme compense-t-elle votre manque d'attention au foyer? Lui dites-vous que vous l'aimez. Si certains d'entre vous sont gênés par l'une des réponses que vous avez faites mentalement aux questions que j'ai posées, faites dès maintenant les rectifications. S'il y a des problèmes de dignité, je vous recommande avec toute la tendresse de mon cœur de parler à votre évêque ou à un membre de votre présidence de pieux dès maintenant. Vous avez besoin d'aide. Ces questions qui vous perturbent ne guériront pas toutes seules. Si vous ne faites rien, elles vont vraisemblablement empirer. Peut-être vous sera-t-il difficile de parler à votre dirigeant de la prêtrise. Mais je vous recommande de le faire maintenant, pour votre bien et dans l'intérêt de ceux qui vous aiment. Mes frères, je vais maintenant parler de la manière d'utiliser la prêtrise pour faire du bien aux autres, surtout aux filles de notre Père Céleste. La proclamation sur la famille stipule que les hommes et les femmes doivent être partenaires égaux. Je suis assuré que chaque femme dans l'Église souhaite que ces choses se passent ainsi et les soutiennent. Beaucoup de maris pratiquent le partenariat avec leurs compagnons. Cependant, beaucoup ne le font pas. J'encourage tout homme de développer un partenariat égal avec sa femme et de faire les choses immédiatement. Un partenariat à égalité est un grand bénéfice pour le mari et la femme. Soyez sensible au murmure de l'esprit quand vous utilisez ce privilège suprême d'agir au nom du Seigneur par votre prêtrise. Soyez plus conscient de la manière d'utiliser davantage le pouvoir de la prêtrise dans la vie de ceux que vous aimez et que vous servez. Je pense tout particulièrement à des personnes telles qu'une veuve qui est dans le besoin et qui apprécierait sans doute le détenteur de la prêtrise compréhensif et compatissant que vous êtes. Beaucoup de ces personnes ne demandent jamais de l'aide. Prenez conscience de l'éventail des problèmes que vous pourriez l'aider à résoudre chez elle, la soulager de ses inquiétudes grâce à une bénédiction inspirée de la prêtrise, ou le besoin de petites réparations. Si vous êtes évêque, vous pouvez, par l'entremise de sœurs sensibilisées et attentionnées de la société de secours, être mis au courant des besoins de femmes de votre paroisse qui n'ont pas la bénédiction d'avoir la prêtrise chez elles. Par une visite d'enseignement, la société de secours peut détecter des besoins et vous recommander des solutions. Pour des sujets qui dépassent les compétences de la société de secours, vous pouvez faire appel au collège des anciens ou au groupe des grands prêtres pour qu'il apporte de l'aide suivant les besoins. Si vous êtes évêque, lors d'une entrevue avec un mari et son épouse qui ont des difficultés conjugales, faites-vous autant confiance aux paroles de la femme qu'à celles du mari. En parcourant le monde, je m'aperçois que certaines femmes sont désavantagées parce que le dirigeant de la prêtrise est plus persuadé par un fils que par une fille de notre Père Céleste. Ce déséquilibre ne doit tout simplement pas être. Les sœurs seules jouissent-elles de la même considération et de la même attention qu'elles méritent quand elles sont membres de paroisses familiales? Ont-elles des occasions de remplir des appels importants où elles se sentent bienvenues et désirées? Reçoivent-elles le soutien requis de la prêtrise? L'objectif de l'autorité de la prêtrise est de donner, de servir, d'édifier, d'inspirer, et non pas de faire preuve d'injustice ou d'user de la force. Dans certaines cultures, l'homme occupe un rôle dominant un avec le sentiment d'avoir l'autorité de contrôler, de réguler toutes les affaires familiales. Ce n'est pas la manière du Seigneur. Dans certains endroits, la femme est la quasi-propriété de son mari, comme si elle était l'un de ses biens. Cette vision cruelle, stérile et erronée du mariage, encouragée par Lucifer, doit être rejetée par tout détenteur de la prêtrise. Elle est fondée sur le préjugé faux que l'homme est, d'une manière ou d'une autre, supérieur à la femme. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Les Écritures confirment que notre Père Céleste a gardé la femme, sa création la plus grande, la plus splendide, la plus élevée pour la fin. La femme n'a été créée que quand tout le reste a été terminé. Ce n'est qu'alors que l'œuvre a été déclarée complète et bonne. Au sujet de nos femmes, de nos mères, de nos grands-mères et de nos sœurs et des autres femmes importantes de notre vie, le président Hinckley a déclaré « De toutes les créations du Tout-Puissant, nulle n'est plus belle ni plus inspirante qu'une fille de Dieu qui marche dans la justice en comprenant pourquoi elle doit le faire, qui honore et respecte son corps comme quelque chose de sacré et de divin, qui développe son intelligence et augmente constamment sa compréhension, qui nourrit son esprit de la vérité éternelle. Par décret divin, la femme est fondamentalement différente de l'homme à de nombreux égards. Elle est compatissante et cherche l'intérêt de ceux qui l'entourent. Mais cette nature compatissante peut devenir écrasante pour les femmes, qui voient bien plus de choses à accomplir qu'elles n'en peuvent faire, même avec l'aide du Maître. Certaines se découragent parce qu'elles trouvent qu'elles ne peuvent pas faire tout ce qu'elles devraient. Je crois que c'est le sentiment de beaucoup de femmes dignes, efficaces et dévouées de l'Église. C'est pourquoi, mari ou fils, exprimez donc votre reconnaissance pour ce que votre femme et votre mère accomplissent pour vous. Exprimez souvent votre amour et votre reconnaissance. Cela rendra la vie beaucoup plus riche, plus agréable et plus constructive pour beaucoup de filles de notre Père Céleste, qui entendent rarement un compliment et qui ne sont pas remerciées pour la multitude de bonnes choses qu'elles accomplissent. Marie, quand vous sentez que votre femme a besoin d'encouragement, prenez-la dans vos bras et dites-lui combien vous l'aimez. Puisse chacun de nous toujours faire preuve de tendresse et de considération à l'égard des femmes extraordinaires qui enrichissent notre vie. Souvent, la valeur vraie de quelque chose n'est pas reconnue. Pour illustrer, considérez un homme qui a perdu l'usage de la prêtrise par la transgression. Elle lui a ensuite été rendue dans le cadre de la restitution des ordonnances qu'il a obtenues en se repentant complètement. Après cette restitution, je me suis adressé à sa femme et lui ai dit « Voulez-vous une bénédiction ?» Elle a répondu « Oui » avec enthousiasme. Puis j'ai regardé le mari, qui pouvait alors utiliser sa prêtrise, et j'ai dit « Voudriez-vous donner une bénédiction à votre femme ?» Les mots ne sauraient exprimer la grande émotion d'une telle expérience et les liens d'amour, de confiance et de reconnaissance qu'elle a tissés. On ne devrait pas devoir perdre sa prêtrise pour l'apprécier plus complètement. Je connais la joie et le bonheur immense d'aimer, de chérir et de respecter de tout mon cœur et de toute mon âme ma chère épouse. Puisse votre utilisation de la prêtrise et votre manière de traiter les femmes importantes de votre vie vous apporter la même satisfaction. Étant l'un des 15 apôtres du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, j'exprime mes sentiments personnels sur la prêtrise, telle qu'elle est exprimée par ces paroles du président Hunter.
President Howard W. Hunter. As special witnesses of our Savior,
en qualité de témoins spéciaux de notre Sauveur, nous avons reçu la tâche immense de gérer les affaires de son Église et de son royaume, et de servir ses filles et ses fils sur toute la terre. Du fait de notre appel à témoigner, gouverner et servir, il est requis de nous, malgré l'âge, les infirmités, l'épuisement et le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'accomplir l'œuvre qu'il nous a donné à faire jusqu'à notre dernier souffle. Dieu nous tiendra pour responsables de la manière dont nous traitons ces filles précieuses. Traitons-les donc comme il le souhaiterait. Je prie pour que le Seigneur nous guide, pour que nous soyons plus inspirés, sensibles et productifs avec la prêtrise que nous détenons, surtout avec ses filles. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Je parle ce soir de l'expiation de Jésus-Christ et de ce qu'elle a à voir avec la préparation, la bénédiction et la distribution de la Sainte Cène par les détenteurs de la prêtrise d'Aaron. J'utiliserai une courte expression. Il y a, cela a déjà été adressé par le Hawk ce matin, mais peut-être certains d'entre nous ont besoin d'une répétition. J'utiliserai une courte expression tirée des Écritures qui m'aide à visualiser la miséricorde du Sauveur. Il s'agit de l'expression « les bras de la sécurité ». Les membres d'une famille étaient occupés à prendre des photos à un endroit pittoresque de la bordure nord du Grand Canyon. Ils ont entendu des cris et se sont précipités pour s'apercevoir qu'une fillette de 2 ans était tombée à travers une balustrade jusqu'à une corniche à 10 de mètres en contrebas. La petite a essayé de remonter, mais ses mouvements l'ont fait glisser encore plus bas, jusqu'à 1,50 m, d'un pic dangereux d'une 60 mètres. Un jeune homme de 19 ans, nommé Yann, a vu où elle était, et, grâce à sa formation au secours d'urgence, a su comment gérer la situation. Voici ce qu'il a dit. Immédiatement, tout m'est revenu à l'esprit, et j'ai su quoi faire. J'ai posé mon appareil photographique, et j'ai remonté le sentier jusqu'à un endroit un peu plus loin où il n'était pas aussi escarpé. J'ai enjambé la balustrade, j'ai descendu avec difficulté quelques rochers. J'ai traversé les broussailles et je l'ai trouvée. En la tenant dans ses bras pendant 1 heure, Yann a attendu que des équipes de secouristes descendent avec des cordes pour les sauver. L'expression « en la tenant dans ses bras » a attiré mon attention parce que les Écritures parlent de bras, des bras de l'amour, des bras de la miséricorde et des bras de la sécurité. L'expression des Écritures « enserré dans les bras de la sécurité » vient du message qu'Amulek adresse aux Oramites sur l'expiation infinie et éternelle. Il enseigne que le sacrifice du Fils de Dieu a permis à l'homme d'avoir foi au Christ pour qu'il nous amène à nous repentir. Et ainsi la miséricorde peut satisfaire aux exigences de la justice et les enserre dans les bras de la sécurité. Pour mieux comprendre les bras de la sécurité, il est important de se rappeler que le Sauveur a utilisé des choses tangibles, par exemple des pièces de monnaie, des semences, des pains, des poissons et des parties du corps pour enseigner les principes de l'Évangile. Les bras sont tangibles et ils nous servent à exprimer l'affection et l'amour. Quand je reviens du bureau, je suis enserré dans les bras tangibles de ma femme. J'ai connu les bras de l'amour et de la sécurité pendant tout mon service en Amérique latine par la manière habituelle de saluer l'abrazo ou l'embrassade. Lorsque je méditais sur la manière d'enseigner efficacement l'expiation, l'expression « les bras de la sécurité » m'a été utile. Quand nous avons été baptisés et que nous avons reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains, nous avons reçu 2 ordonnances. Qui nous font connaître les bras de la sécurité. En allant humblement et tout à fait repentant à la réunion de Sainte-Cène, et en prenant dignement la Sainte-Cène, nous pouvons sentir continuellement ses bras. Le chapeau de la section 110 des doctrines d'alliance donne le contexte de l'un de nos versets qui nous disent le mieux ce que c'est que jouir des bras de la sécurité. Un jour de sabbat, pendant la consécration du temple de Kirtland, Joseph Smith le prophète a expliqué que lui et d'autres détenteurs de la prêtrise avaient préparé, béni et distribué la Sainte Cène aux membres de l'Église. Après cette ordonnance sacrée, Joseph Smith et Oliver Cowdery se sont retirés pour prier en privé. Après cette prière, le Sauveur est apparu à ces deux hommes et a dit, « Voici, vos péchés vous sont pardonnés. Vous êtes purs devant moi. Levez donc la tête et réjouissez-vous. » La succession d'événements qui s'est produite en 1836 dans le temple de Kirtland se retrouve à notre époque et peut s'appliquer à nous. Jour de sabbat après jour de sabbat, vous, jeunes détenteurs de la prêtrise, vous bénissez, distribuez la Sainte Cène aux saints qui viennent à la réunion de Sainte Cène dans un esprit de prière, aspirant à la guérison spirituelle et espérant entendre dans leur esprit et dans leur cœur ces mots. Voici, vos péchés vous sont pardonnés. Vous êtes purs devant moi. Levez donc la tête et réjouissez-vous. Dallin H. Oaks a témoigné qu'une purification ou une guérison spirituelle est associée à la Sainte Cène. Je cite, « La Sainte Cène est un renouvellement de nos alliances et de bénédiction du baptême. Il nous est commandé de nous repentir de nos péchés et d'aller au Seigneur le cœur brisé et l'esprit contrit et de participer à la Sainte Cène. » Continue. En mangeant ce pain, nous témoignons que nous voulons prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, nous souvenir toujours de lui et garder ses commandements. Lorsque nous observons cette alliance, le Seigneur renouvelle l'effet purificateur de notre baptême. Nous sommes purifiés et nous pouvons avoir son esprit avec nous. Fin de citation. Pour aider les membres à recevoir plus pleinement cette purification ou ces bras de la sécurité, les détenteurs des clés pour donner l'autorité et les personnes qui préparent, bénissent et distribuent la Sainte Cène doivent veiller à ce que l'on suive les directives générales contenues dans les manuels d'instruction de l'Église concernant la préparation et la distribution de la Sainte Cène. Chaque détenteur de la prêtrise doit se rappeler qu'il agit au nom du Seigneur et être respectueux et plein de dignité. En général, nos jeunes sont exemplaires. Il nous arrive cependant de constater, chez ceux qui officient à la table de Sainte-Cène, une tendance dérangeante à s'habiller et à se tenir d'une manière trop laxiste et trop négligée. Jeunes gens, avant d'aller à l'église, veuillez vous arrêter une fois de plus devant un miroir et vous demander si votre présentation est en tout point correcte. Mieux encore, demandez à quelqu'un que vous aimez, par exemple l'un de vos parents, de vous regarder une fois de plus. Et si quelque chose ne va pas, ne lui en veuillez pas de vous donner des conseils. Les vrais serviteurs de Jésus-Christ ont une présentation et des vêtements corrects qui reflètent toujours les normes du Maître et non la tendance du monde à la négligence. Veillez attentivement à chaque détail pour vous assurer que l'Esprit du Seigneur sera présent. La tenue ou la présentation des personnes qui officient à la table de Sainte-Cène ne doivent pas distraire les personnes qui recherchent avec ferveur les bénédictions de l'expiation infinie. L'un des thèmes que l'on trouve dans les messages du président Monson aux détenteurs de la prêtrise est que c'est un honneur de détenir la prêtrise. Je cite, « C'est la mission de servir, le droit d'encourager et la possibilité de faire du bien à autrui. » Fin de citation. Je témoigne que ceci s'applique à la préparation, à la bénédiction et à la distribution de la Sainte Cène. Pendant que j'étais évêque, j'ai vu les bénédictions de l'expiation dans la vie des membres de l'Église qui ont commis des transgressions graves. En qualité de juge en Israël, j'ai écouté leurs confessions et quand c'était nécessaire, je leur ai imposé des restrictions, par exemple de ne pas prendre la Sainte Cène pendant quelque temps. Un jeune adulte seul de notre paroisse sortait avec une personne. Ils ont laissé leurs sentiments les égarer. Il est venu me demander aide et conseils. Sur la base de sa confession et de ce que l'Esprit m'a fait ressentir, je ne l'ai plus autorisé, entre autres choses, à prendre la Sainte Cène pendant quelque temps. Nous nous sommes rencontrés régulièrement pour nous assurer qu'il y avait repentir. Et, après un temps suffisant, je l'autorisais à prendre à nouveau la Sainte Cène. Assis sur l'estrade, j'ai eu le regard attiré vers lui qui prenait maintenant la Sainte Cène dignement. J'ai vu les bras de la miséricorde, de l'amour et de la sécurité l'enserrer tandis que la guérison de l'expiation réchauffait son âme et le soulageait de son fardeau, avec pour résultat le pardon, la paix et le bonheur promis. J'ai fait l'expérience et j'ai le témoignage de ce dont le président Packer a témoigné. Je cite, « Nous pensons souvent que l'expiation du Christ ne s'applique qu'à la fin de la vie, dans la condition mortelle, pour racheter de la chute et de la mort spirituelle. C'est beaucoup plus que cela. C'est un pouvoir présent à chaque instant auquel nous pouvons faire appel dans la vie quotidienne. Lorsque nous sommes torturés, déchirés ou tourmentés par la culpabilité ou écrasés par le chagrin, le Sauveur peut nous guérir. Bien que nous ne comprenions pas pleinement comment l'expiation du Christ s'est réalisée, nous pouvons ressentir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'aime mon Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Je mets en eux ma foi, mon amour, ma loyauté et ma dévotion. Je témoigne que Dieu est notre Père Céleste et que l'expiation est réelle et a un pouvoir en nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. »
I speak tonight to my brethren of the Aaronic priesthood.
Ce soir, je m'adresse à mes frères de la prêtrise d'Aaron. Je veux vous aider à apprécier plus profondément ce que vous êtes, ce qu'est votre but dans la vie, et comment vous pouvez réussir à l'atteindre. Vous êtes venus ici-bas à une époque des plus importantes. Nous entrons dans les étapes finales qui marquent le paroxysme d'une grande guerre. Elle a commencé avant la fondation du monde et s'est poursuivie avec des conséquences terribles tout au long de l'histoire de ce monde. Je parle de la guerre entre les disciples du Christ et toutes les personnes qui nient qu'ils soient Dieu, leur Dieu. Au sujet de cette guerre, Jean le Révélateur a écrit, « Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est Satan qui a lancé cette guerre prémortelle. Il l'a fait en se rebellant contre le plan du salut que notre Père a prévu pour ses enfants, et en rejetant le Christ qui a été choisi pour mener à bien ce plan. La tragédie a été qu'un tiers des enfants de notre Père ont suivi Satan, mais deux tiers ne l'ont pas fait. Vous, mes jeunes amis, vous avez été parmi ceux-ci et vous êtes venus avec eux pour suivre le plan du bonheur du Père. Malheureusement, la guerre de Satan n'a pas pris fin lorsqu'il a été chassé des cieux. Comme Jean le fait remarquer, Satan et ses suppôts ont été précipités sur la terre et ils sont venus animés d'une grande colère. On peut voir la preuve de leur colère dans le sang et l'horreur qui afflige l'humanité depuis le début des temps. Seul Dieu peut sonder la nature et la gravité des blessures infligées au genre humain, lui qui, malgré sa prééminence, a été amené à pleurer au spectacle des victimes. Nous nous trouvons maintenant dans les derniers jours de l'histoire temporelle du monde. Un jour viendra où le Fils de notre Père reviendra sur la terre, où il a été rejeté, et il la revendiquera. Ce jour-là, il soumettra Satan et ses légions et introduira une période de 1000 ans de paix et de justice. En prévision de ce jour, Dieu a rétabli une dernière fois son royaume sur la terre. Ce royaume est l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Il est important de noter que toutes les autres tentatives d'établir le royaume de Dieu sur la terre ont finalement échoué. Bien sûr, il y a eu des périodes de succès de temps en temps, mais jamais auparavant le royaume de Dieu n'est resté en permanence parmi les hommes. Cependant, ce dernier établissement définitif du royaume de Dieu est différent. Il n'échouera pas. En fait, il ne peut pas échouer. Pour assurer son succès définitif, le dernier établissement du royaume de Dieu a commencé avec un pouvoir spirituel sans précédent, et il est soutenu par le même pouvoir et quelque chose de plus. Ont été réservés pour venir en ces derniers jours et pour travailler pour notre Père et son Fils, certains des fils et des filles les plus vaillants de notre Père. Leur vaillance et leur noblesse ont été démontrées dans le combat préterrestre contre Satan. Là, laissés libres de choisir le bien ou le mal, ils ont choisi le bien et ont exercé une foi extrêmement grande et de bonnes œuvres. Ce sont les traits de caractère qui sont requis maintenant pour soutenir l'œuvre de Dieu sur la terre et pour sauver les âmes des hommes de la colère croissante de l'adversaire. Or, mes jeunes amis de la prêtrise d'Aaron, vous êtes ces fils vaillants et nobles de notre Père. Vous êtes la force de la maison, oui, ces guerriers. Vous êtes ceux qui ont choisi le bien et non le mal, et qui ont montré une foi extrêmement grande et de bonnes œuvres. Et du fait de votre histoire personnelle, vous avez été chargés de venir sur la terre en ces derniers jours pour faire à nouveau ce que vous avez déjà fait, pour choisir à nouveau le bien et non le mal, et pour montrer une foi extrêmement grande, et pour le faire pour le royaume de Dieu, sur la terre et pour votre prochain. Le royaume de Dieu étant rétabli ici-bas avec une telle puissance, Satan sait qu'il a peu de temps. Il sait aussi que rien ne peut renverser le royaume de Dieu si ce n'est la transgression de son peuple. Il sait que s'il peut vous pousser à transgresser, il peut vous empêcher d'accomplir une mission à plein temps, de vous marier au temple et de protéger vos futurs enfants dans la foi, et que tout cela non seulement vous affaiblit, mais affaiblit aussi l'Église. Il sait que rien ne peut renverser le royaume de Dieu si ce n'est la transgression de son peuple. Ne vous y trompez pas. Sa guerre est maintenant concentrée sur vous. Vous qui cherchez à garder les commandements de Dieu et à avoir le témoignage de Jésus-Christ. Maintenant, mes jeunes amis, vous devez vous rendre compte que les temps actuels et les temps à venir sont difficiles. À ce propos, le président Boyd K. Packer a déclaré « Je ne connais rien dans l'histoire de l'Église, ni même dans l'histoire du monde, qui soit comparable à la situation actuelle. Il n'y avait rien à Sodome et Gomorre de pire que la dépravation qui nous entoure maintenant. » Quand je parle des périls de notre époque, je ne veux pas créer la peur. Être sérieux signifie évaluer sérieusement votre situation et peser avec soin et circonspection les conséquences de vos actions. Le sérieux débouche donc sur un jugement juste, ainsi que sur un comportement modéré. Il n'est donc pas étonnant que les prophètes conseillent aux jeunes gens d'être sérieux. Rappelez-vous que Mormon a dit que ce qui faisait que les 2000 jeunes guerriers des Lamans étaient si efficaces au combat, ce n'était pas seulement leur courage, leur force et leur loyauté, mais aussi leur sérieux. C'est un Mormon seulement âgé de 10 ans qui ont été confiés les annales sacrées de la nation néphite, parce qu'il était un enfant sérieux et rapide à observer. C'est Mormon qui a dit à 15 ans qu'étant un esprit plutôt sérieux, il avait été visité par le Seigneur et qu'il avait connu la bonté de Jésus. Ainsi, au moment où nous atteignons les derniers stades et le paroxysme de la guerre contre Satan, vous devez être sérieux face à la manière d'être du monde. Vous ne pouvez pas consommer de la drogue, de l'alcool ou du tabac. Vous ne pouvez pas participer à des activités pornographiques ou autrement immorales. Vous ne pouvez pas mentir, tricher, utiliser un langage vulgaire ou ordurier. Vous ne pouvez pas défigurer votre corps par des tatouages ou des percements. Vous ne pouvez pas faire ces choses et vaincre dans la bataille pour votre âme, encore moins si vous voulez être un vaillant guerrier dans le grand combat pour les âmes de tous les autres enfants de notre Père. Comprenez, mes amis, qu'il n'y a qu'une seule manière de gagner la guerre contre Satan, c'est de la gagner de la même manière qu'elle fut gagnée au commencement, lorsque la victoire fut finalement achevée dans la guerre des cieux. Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car ils, Michel et ses anges, l'ont vaincu, référence au diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie, mais ont gardé le témoignage jusqu'à la mort. Ne manquez pas la signification de cette déclaration. Satan était vaincu au début par la foi au Seigneur Jésus-Christ et en son sacrifice expiatoire. Par le témoignage du Christ, gardé fermement jusqu'à la fin, et par la consécration au Seigneur et à son œuvre. Si c'était la manière de conquérir Satan, c'est la manière sûre de le conquérir maintenant. C'est par la foi au Seigneur, par le témoignage du Seigneur et par la consécration au Seigneur que Satan était vaincu dans la vie prémortelle. Ces qualités sont déjà en vous et vous devez simplement les cultiver. Faites d'abord comme Joseph Smith a fait. Trouvez un endroit tranquille pour prier le Seigneur. Faites-le régulièrement et avec intensité. La prière est la condition préalable aux révélations. Plus les prières sont régulières et intenses, plus vous recevez des révélations. Lorsque la révélation a été reçue, on reçoit l'évidence de choses qui ne sont pas vues et qui sont les fondations de la foi. Deuxièmement, apprenez à entendre la voix du Seigneur. Sa voix est une toute petite voix. C'est une voix qui est plutôt sentie qu'entendue. Elle vient sous la forme de pensées, de sentiments et d'impressions. Pour entendre une telle voix, vous devez être calme et écouter au sein de votre âme et éviter les rires incontrôlables. Afin d'entendre la voix précieuse de la voix du Seigneur qui vous soutiendra en toutes circonstances. Troisièmement, obéissez à la parole du Seigneur comme elle vous a été donnée. Sa parole ne va pas seulement vous apporter de l'amour et du réconfort, mais elle pourra vous corriger. Obéissez-lui, quelle que soit la difficulté à le faire. Et faites-le maintenant. C'est en faisant la volonté du Seigneur qu'une connaissance de lui et un amour pour lui va augmenter au sein de votre âme, même au point de donner votre vie et de le suivre. Mes chers frères de la prêtrise d'Aaron, c'est votre époque. Ne gaspillez pas votre temps. Soyez sages. Prenez le bouclier de la foi qui pourra s'opposer à tous les traits enflammés et combattez le combat de la foi. Et lorsque vous avez fait tout cela, voyez le salut du Seigneur et gardez votre paix. Et je vous assure que ce salut viendra et vous délivrera, vous et les vôtres, de tout mal. Je témoigne de cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Merci mes frères. Le cœur assemblé vaut maintenant chanter debout au grand prophète. Dieter F. Wurdorf, deuxième conseiller de la première présidence, nous adressera ensuite la parole. Puis nous entendrons Henry B. Haring, premier conseiller de la première présidence. Le cœur et l'assemblée vont chanter le cantique.
Jesus. My beloved brethren,
mes chers frères, c'est un honneur pour moi d'être avec vous pour cette réunion mondiale de la prêtrise. Avec vous, je suis reconnaissant d'être avec notre prophète bien-aimé, Thomas Esmondson, et avec le président Eyring. Mes frères, nous vous remercions de votre fidélité et de votre force morale. C'est réellement un honneur et une joie de faire partie de cette grande fraternité. Il y a quelques années, dans notre église de Darmstadt, en Allemagne, il a été demandé à un groupe de frères de déplacer un piano à queue de la salle de culte vers la salle culturelle adjacente, où l'on en avait besoin pour une activité musicale. Aucun d'eux n'était déménageur professionnel, et la tâche de faire traverser la salle de culte à ce très lourd instrument et de le mettre dans la salle culturelle paraissait presque impossible. Tout le monde savait que ce travail nécessitait non seulement de la force physique, mais aussi une coordination attentive. Les idées ne manquaient pas, mais aucune ne permettait d'assurer l'équilibre du piano. À plusieurs reprises, on a repositionné les frères selon leur force, leur taille et leur âge, mais sans succès. Alors que les frères se tenaient autour du piano, ne sachant plus que faire, un de mes amis, frère Hanno Lushin, a dit, « Mes frères, tenez-vous proches les uns des autres et soulevez là où vous êtes. » Cela semblait trop simple. Pourtant, chacun soulevait là où il était, et le piano a décollé du sol et est passé dans la salle culturelle comme de lui-même. C'était la solution du problème. Il suffisait qu'ils se tiennent proches les uns des autres et qu'ils soulèvent là où ils étaient. J'ai souvent pensé à l'idée simple de Frère Lushin et j'ai été impressionné par sa vérité profonde. Ce soir, je voudrais parler davantage de cette idée toute simple, soulever là où vous êtes. Cela peut paraître simple, mais le fait d'édifier là où l'on se trouve est un principe générateur de force. La plupart des détenteurs de la prêtrise de ma connaissance comprennent et appliquent ce principe. Ils sont impatients de se retrousser les manches et de se mettre au travail, quel qu'il soit. Ils accomplissent fidèlement leur devoir de prêtrise. Ils magnifient leur appel. Ils servent le Seigneur en servant leur prochain. Ils restent proches les uns des autres et édifient là où ils se trouvent. Mais il y en a qui, parfois, ont du mal à appliquer ce principe. Et quand c'est le cas, ils semblent se partager entre les deux camps suivants, où ils cherchent à diriger, ou ils cherchent à se cacher. Ils recherchent le pouvoir ou un trou de souris. Ceux qui cherchent à diriger risquent de penser qu'ils peuvent faire davantage que ce qu'on est en train de leur demander de faire. Certains penseront peut-être, si j'étais évêque, cela ne se passerait pas comme ça. Ils se croient dotés de capacités surpassant de loin leur appel. Il se peut que, dans un poste important de direction, ils s'efforceraient de changer les choses. Mais ils se demandent, quelle influence puis-je avoir comme simple instructeur au foyer ou conseiller dans la présence de collège? Ceux qui cherchent à se cacher pensent peut-être qu'ils ont trop à faire pour servir dans l'église. Quand il faut nettoyer l'église, quand la famille Mendez a besoin d'aide pour déménager, quand l'évêque les appelle pour assurer une classe, ils semblent toujours avoir une excuse toute prête. Il y a 20 ans, Ezra Taft Benson, alors président de l'église, a dit que des évêques et des présidents de pieux rapportaient que certains membres, je cite, refusent des appels en se déclarant trop occupés ou en prétextant qu'ils n'ont pas le temps. D'autres acceptent ces appels, mais refusent de les magnifier. Le président Benson a ajouté, « Le Seigneur attend de chacun de nous qu'il ait un appel dans son Église, afin que les autres soient bénis par les talents et l'influence de chacun. » Fin de citation. Il est assez étrange de voir que l'origine de ces deux tendances, chercher à diriger et chercher à se cacher, est la même, l'égoïsme. Il y a un meilleur moyen que nous enseigne le Sauveur lui-même. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quand nous cherchons à servir les autres, nous sommes motivés non par l'égoïsme, mais par la charité. C'est ainsi que Jésus a vécu et ainsi qu'un détenteur de la prêtrise doit vivre. Le Sauveur ne se souciait pas des honneurs des hommes. Satan lui a offert tous les royaumes et toute la gloire du monde, mais Jésus a rejeté immédiatement et complètement la proposition. Pendant toute sa vie, le Sauveur a dû souvent se sentir fatigué et pressuré, avec à peine un instant à lui. Mais il a toujours trouvé du temps pour les malades, les affligés et les négligés. Malgré ce brillant exemple, nous nous laissons trop facilement et trop souvent prendre au piège de briguer les honneurs des hommes au lieu de servir le Seigneur de tout notre pouvoir, de tout notre esprit, de toute notre force. Mes frères, quand nous tiendrons devant le Seigneur pour être jugés, celui-ci regardera-t-il au poste que nous avons occupé dans le monde ou même dans l'Église? Croyez-vous que les autres titres que nous avons eus, que ceux de mari, de père ou de détenteur de la prêtrise, auront beaucoup de sens pour lui? Croyez-vous qu'il s'intéressera de savoir à quel point notre emploi du temps était chargé ou le nombre de réunions importantes que nous avons eues? Supposez-vous que notre succès à remplir nos journées de rendez-vous nous excusera de ne pas avoir passé du temps avec notre femme et nos enfants? Le Seigneur a une toute autre façon de juger que nous. Il est satisfait du serviteur noble et non du noble qui recherche son intérêt. Les personnes humbles, ici-bas, porteront des couronnes de gloire dans l'autre monde. Jésus a enseigné lui-même cette doctrine quand il a raconté l'histoire du riche vêtu de pourpre et de fin lin et qui mangeait chaque jour de plantureux repas, tandis que le mendiant Lazare aspirait seulement à goûter aux miettes qui tombaient de la table du riche. Dans l'au-delà, Lazare apparaît en gloire à côté d'Abraham, alors que le riche est précipité en enfer où il lève les yeux en proie au tourment. Cette année marque le 200e anniversaire de la naissance de John Rowe Moyle. John était un converti à l'Église, qui avait quitté sa maison d'Angleterre et s'était rendu dans la vallée du lac Salé avec un convoi de charrettes à bras. Il a construit une maison pour sa famille dans une petite localité, dans une vallée éloignée de Salt Lake City. C'était un excellent tailleur de pierre. Et du fait de son talent, on lui a demandé de travailler pour le temple de Salt Lake City. Chaque lundi, il partait de chez lui à 2h du matin et marchait pendant 6h pour être à l'heure à son poste. Le vendredi, il quittait son travail à 17h et marchait presque jusqu'à minuit avant d'arriver chez lui. Il a fait ainsi pendant des années. Un jour, qu'il faisait ses tâches à la maison, une vache lui a lancé un coup de sabot qui a entraîné une fracture multiple de la jambe. Avec le peu de moyens médicaux, la seule solution était d'amputer la jambe cassée. La famille et les amis de John l'ont donc attaché à une porte et, avec une scie à bûche, lui ont amputé la jambe à une dizaine de centimètres du genou. Malgré cette chirurgie rudimentaire, la jambe a commencé à guérir. Dès qu'il a pu s'asseoir dans son lit, John a commencé à sculpter une jambe de bois avec une articulation ingénieuse qui servait de cheville à un pied artificiel. La marche avec cette jambe de bois était extrêmement douloureuse, mais il n'a pas abandonné, s'entraînant jusqu'à avoir assez d'endurance pour parcourir chaque semaine les 35 kilomètres jusqu'au temple de Salt Lake City, où il a poursuivi son travail. C'est de ses mains qu'il a sculpté « Holiness to the Lord », « Sainteté à l'Éternel » qui est aujourd'hui inscrit en lettres d'or pour les visiteurs du temple de Salt Lake City. John n'a pas fait cela pour les louanges des hommes. Il n'a jamais non plus reculé devant l'accomplissement de son devoir, même s'il avait toutes les raisons de le faire. Il savait ce que le Seigneur attendait de lui. Des années plus tard, le petit-fils de John, Henry D. Moyle, a été appelé comme membre du Collège des Douze et ensuite fait partie de la première présidence de l'Église. Le service du président Moyle dans ses appels a été digne de louange, mais le service de son grand-père, John, bien que moins public, est tout aussi agréable au Seigneur. La force de caractère de John, la disposition à faire des sacrifices qu'il a laissé en héritage à la postérité, a été une bannière de fidélité et un étendard de devoir pour sa famille et pour l'Église. John Rowe Moyle savait ce que voulait dire édifier là où l'on est. Les distinctions, l'exemple des 2000 jeunes guerriers des Lamans, les distinctions honorifiques personnelles sont rarement un signe de la valeur de notre service. Nous ne connaissons pas, par exemple, le nom d'aucun des 2000 fils des Lamans. Aucun d'eux n'est nommé. Mais on se rappellera toujours leur groupe pour son honnêteté, son courage et sa volonté de servir. Ils ont accompli ensemble ce qu'aucun d'eux individuellement n'aurait pu accomplir seul. Voilà la leçon pour nous, mes frères de la prêtrise. Quand nous tenons ensemble et que nous édifions là où nous sommes, quand nous nous préoccupons plus de la gloire de Dieu que notre prestige ou de notre plaisir personnel, nous pouvons accomplir beaucoup plus. Chaque appel est l'occasion de servir et de progresser. Aucun appel n'est indigne de nous. Chaque appel nous donne l'occasion de servir et de progresser. Le Seigneur a organisé l'Église de manière à donner à chaque membre la possibilité de servir, ce qui, à son tour, entraîne la progression spirituelle. Quel que soit votre appel, je vous exhorte à y voir l'occasion non seulement de fortifier les autres et de leur faire du bien, mais aussi de devenir ce que notre Père Céleste veut que vous deveniez. En voyageant dans les pieux de Sion pour réorganiser une présence de pieux, j'ai parfois eu la surprise, au cours d'un entretien, d'entendre un frère me dire qu'il avait reçu l'impression qu'il serait membre de la prochaine présidence. La première fois que j'ai entendu cela, je ne savais pas vraiment comment réagir. Il m'a fallu du temps avant que le Saint-Esprit me fasse comprendre. Je crois que le Seigneur a un certain appel pour chaque homme. Parfois, il accorde des murmures de l'Esprit qui nous disent que nous sommes dignes de recevoir certains appels. Cette bénédiction spirituelle, cette tendre miséricorde vient de Dieu. Mais parfois, nous n'entendons pas le reste de ce que Dieu nous dit. Peut-être, dit-il, bien que tu sois digne de remplir ce poste, ce n'est pas ce à quoi je t'appelle. Je souhaite plutôt que tu édifies là où tu es. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Une tâche que vous seul pouvez accomplir. Tout détenteur de la prêtrise se trouve à un endroit unique et à une tâche importante qu'il est le seul à pouvoir accomplir. Nous avons tous entendu dire comment le président Manson rend visite et donne des bénédictions aux personnes âgées et aux malades, subvenant toujours à leurs besoins et leur apportant joie, réconfort et amour. Président Manson a chez lui le naturel qui fait que les gens se sentent mieux. Ne serait-il pas merveilleux s'il pouvait rendre visite à chaque famille de l'Église et veiller sur elle? C'est vrai. Mais bien sûr, il ne le peut pas et il ne le doit pas. Le Seigneur ne lui a pas demandé de le faire. Il vous a demandé à vous, les instructeurs au foyer, d'aimer les familles qui vous sont attribuées et de veiller sur elles. Le Seigneur n'a pas demandé au président Manson d'organiser et de diriger votre soirée familiale. Il veut que nous le fassions, nous, pères et anciens d'Israël. Peut-être pensez-vous que d'autres, plus capables ou plus expérimentés, pourraient s'acquitter mieux que vous de votre appel et de vos responsabilités. Mais c'est à vous que le Seigneur a donné votre responsabilité pour une bonne raison. Peut-être y a-t-il des gens et des cœurs que vous êtes le seul à pouvoir toucher. Peut-être personne d'autre ne pourrait-il le faire de la même manière. Notre Père Céleste nous demande de le représenter dans l'œuvre noble, de toucher ses enfants et d'être une bénédiction dans leur vie. Il nous demande de rester fermes avec le pouvoir de la prêtrise dans notre cœur et dans notre âme et de faire de notre mieux dans l'appel que nous avons maintenant. Mes frères, vous êtes très forts, vous pouvez être forts, mais vous ne pouvez et ne devez pas soulever un piano tout seul. De même, aucun de nous ne peut ou ne doit faire avancer l'œuvre du Seigneur tout seul. Mais si nous tenons ensemble à l'endroit où le Seigneur nous a appelés, et si nous édifions là où nous sommes, rien ne peut empêcher cette œuvre divine de s'élever et de s'avancer. Mes frères, cessons d'aspirer à des postes éminents et de nous soustraire. Rappelons-nous toujours la grande leçon que nous sommes les porte-bannières du Seigneur Jésus-Christ, soutenus par le Saint-Esprit de Dieu, fidèles et sincères jusqu'à la fin, tous consacrés pour nous donner complètement à la cause de Sion, et tenu par alliance de rester proches les uns des autres et d'édifier là où nous sommes. Je prie pour cela, je vous exprime mon amour et je vous donne ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
My dear brethren,
mes chers frères, ce soir, je veux encourager les détenteurs de la prêtrise qui se sentent parfois submergés par leurs responsabilités. C'est un problème dont j'ai déjà parlé. J'y reviens parce que cela se reproduit si souvent dans la vie de gens que j'aime et que je sers. La plupart d'entre vous ont constaté que leur devoir de la prêtrise les pousse à des limites qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir atteindre. Cela s'est peut-être produit quand on vous a demandé de faire un discours à une conférence de pieux devant des centaines de gens. Pour un converti récent, cela a peut-être été quand on lui a demandé de prier en public ou de faire un cours pour la première fois. Pour certains, c'était peut-être d'essayer d'apprendre une langue au centre de formation des missionnaires. Si cela n'a pas été trop difficile, alors cela s'est sûrement produit dans les rues d'une ville étrangère, quand votre président de mission vous a chargé de parler à tous les gens que vous rencontrez pour témoigner du Sauveur et du rétablissement de l'Évangile. Vous êtes alors peut-être dit, quand j'aurai fini ma mission, être un détenteur fidèle de la prêtrise sera plus facile. Mais dans les années suivantes, vous avez constaté que vous dormiez encore moins, essayant de subvenir aux besoins d'une femme et d'un bébé, d'être gentil et aimant envers votre femme, de faire des études, d'aller vers les membres de votre collège d'anciens, peut-être même les aider à déménager, et essayant de trouver le temps de servir vos ancêtres dans le temple. Vous avez peut-être gardé le sourire en pensant, dans quelques années, être un détenteur fidèle de la prêtrise ne demandera pas autant. Cela deviendra plus facile. Ceux d'entre vous qui en sont un peu plus avancés en âge sourient parce qu'ils savent quelque chose de merveilleux à propos du service dans la prêtrise. Plus on sert fidèlement, plus le Seigneur demande. Votre sourire est joyeux parce que vous savez qu'il nous donne plus de force pour porter la charge plus lourde. Mais ce qu'il y a de difficile dans cette réalité, c'est que pour recevoir cette force supplémentaire, on doit atteindre ses limites dans le service et la foi. C'est comme le développement de la force musculaire. Vous devez briser vos muscles pour les fortifier. Il faut les pousser à la limite de l'épuisement. Puis ils se réparent et deviennent plus forts. Dieu peut nous donner un surcroît de force spirituelle quand nous repoussons nos limites pour servir. Grâce au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ, notre nature peut être changée. Alors notre capacité de porter des fardeaux peut être augmentée, beaucoup plus qu'il n'est nécessaire pour le surcroît de service qu'on nous demandera. Cela m'aide à comprendre quand je vois quelqu'un pour qui le service dans la prêtrie semble facile. Je sais alors que c'est quelqu'un qui a eu de dures épreuves ou qui n'en ont pas encore eu. Alors plutôt que de l'envier, je me tiens prêt à l'aider quand cela deviendra plus difficile pour lui, ce qui ne manquera pas d'arriver. Cette mise à l'épreuve nos limites au service de la prêtrise est rendue nécessaire par le plan de Dieu pour qualifier ses enfants afin qu'ils retournent vivre éternellement avec lui. Notre Père Céleste aime ses enfants. Il nous a offert la vie éternelle qui consiste à vivre avec lui en famille et en gloire éternelle, éternellement. Pour nous qualifier pour recevoir ce don, il nous a donné un corps mortel, la possibilité d'être tenté, de commettre le péché et un moyen d'en être purifié et de ressusciter. Il nous a donné son Fils bien-aimé, Jéhovah, comme sauveur pour que cela soit possible. Le sauveur est né dans la condition mortelle, a été tenté mais n'a jamais péché. Puis à Gethsémané et au Golgotha, il a payé le prix de nos péchés pour que nous puissions être purifiés. Seuls ceux qui ont suffisamment de foi en Jésus-Christ pour se repentir peuvent être purifiés, lavés par l'ordonnance du baptême, et peuvent faire et respecter l'alliance d'obéir à tous ses commandements. Et il fallait qu'il y ait le terrible ennemi des âmes, Lucifer, qui avec ses légions allait sans cesse essayer de capturer tous les enfants de Dieu pour les empêcher d'obtenir la joie de la vie éternelle. Dans sa grande bonté et nous faisant toute confiance, notre Père Céleste avec notre Sauveur a permis à quelques-uns de ses fils sur terre de détenir la prêtrise. Nous avons l'autorité et le pouvoir d'agir au nom de Dieu pour porter le véritable évangile de Jésus-Christ et ses ordonnances au plus grand nombre possible d'enfants de notre Père Céleste. Vous voyez donc toute la confiance que Dieu place en nous. Vous pouvez ressentir toute son importance et l'opposition que nous rencontrons. Il n'est pas surprenant que nous nous sentions de temps en temps surchargés. Lorsque vous vous dites « Je ne suis pas sûr de pouvoir faire cela », c'est la preuve que vous comprenez ce que signifie détenir la prêtrise de Dieu. Le fait est que vous ne pouvez pas le faire tout seul. La responsabilité est trop grande, c'est trop difficile pour vos possibilités mortelles et pour les miennes. En être conscient est à la base du grand service de la prêtrise. Lorsque nous avons ces sentiments d'incompétence, il est temps de nous souvenir du Sauveur. Il nous assure que nous ne sommes pas seuls pour accomplir cette œuvre. Il y a des passages d'Écriture à mettre sur votre miroir et à vous rappeler quand vous doutez de vos capacités. Par exemple, le président Monson a rappelé les promesses du Sauveur quand il m'a béni il y a 6 mois pour que je remplisse mon appel sans crainte, alors que cela me semblait difficile. Les paroles adressées par le Sauveur à son petit groupe de détenteurs de la prêtrise au début de notre dispensation sont venues à l'esprit du prophète quand il a posé les mains sur ma tête. Et là où quiconque vous reçoit, je serai aussi, car j'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Cette promesse que le président Monson a rappelée et citée s'est accomplie pour moi. La confiance a remplacé le doute, l'esprit est venu, les médecins ont été inspirés, ma vie a été préservée et je suis revenu à la vie. Grâce à cette bénédiction du président Monson, il me sera toujours facile de me souvenir du Sauveur et de faire confiance à sa promesse, qui sera devant et à côté de nous quand nous sommes à son service. Je sais que la promesse que des anges nous porteraient est réelle. Il serait bon que vous vous rappeliez l'assurance qu'Élisée a donnée à son serviteur effrayé. Cette assurance est pour nous, quand nous nous sentons presque écrasés lorsque nous servons. Élisée rencontrait une opposition réelle et terrible. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne, pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Comme pour ce serviteur, ceux qui sont avec vous sont en plus grand nombre que ceux que vous voyez contre vous. Certains de ceux qui sont avec vous seront invisibles à vos yeux mortels. Le Seigneur vous portera, et il le fera parfois en appelant des gens pour vous soutenir. C'est pour cela que nous avons des collèges. C'est pour cela que les dirigeants de collège regardent les visages et dans les yeux lors des réunions de collège. C'est pour ça que l'évêque fait plus que présider le collège des prêtres. Il observe le visage des prêtres. Vous aurez un évêque, un président de collège d'anciens ou un président de mission comme cela. Il vous aidera ou appellera des gens pour vous soutenir. Peut-être appellera-t-il le missionnaire qu'il faut pour servir avec vous dans un moment de besoin. Cela nous suggère au moins deux choses. L'une est de reconnaître et de bien recevoir les personnes que le Seigneur envoie pour nous aider. L'autre est de voir dans chaque tâche l'occasion de fortifier quelqu'un. Un président de mission m'a dit un jour qu'il avait affecté un missionnaire à plus de 12 ou 13 collègues. Il m'a dit, chacun d'eux était sur le point de rentrer chez lui prématurément ou d'être envoyé chez lui. Mais nous n'avons perdu aucun d'eux. Quand j'ai dit cela par la suite aux missionnaires, qui en avaient aidé tant d'autres, qui étaient sur le point d'abandonner, sa réponse m'a surpris et m'a appris quelque chose. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais eu de collègue missionnaire qui avait des problèmes. J'ai pu voir que le président de mission avait été inspiré d'envoyer chaque fois l'ange qu'il fallait. Dans notre service, nous recevrons immanquablement et au bon moment l'aide qui verra la force que nous possédons et qui nous donnera du courage. Et nous pouvons aussi nous attendre à être celui que le Seigneur envoie encourager quelqu'un. Je peux vous dire par expérience comment aider si c'est vous qui êtes envoyé. Peu après mon appel au Collège des 12, j'ai reçu un appel téléphonique de Frère Faust, conseiller dans la première présidence. Il m'a demandé de venir dans son bureau. J'y suis allé en me demandant pourquoi il prenait le temps de me parler. Après quelques propos aimables, il m'a regardé en disant, « Est-ce que c'est déjà arrivé ?» Devant mon air étonné, il a ajouté, « Je vous ai observé pendant les réunions. J'ai l'impression que vous avez le sentiment que votre appel est trop difficile pour vous et que vous n'êtes pas qualifié. » J'ai répondu que ce doute m'avait subitement envahi. Je m'attendais à ce qu'il me rassure. Je l'ai remercié d'avoir remarqué mes doutes et je lui ai demandé de l'aide. Mais sa réponse, gentille et ferme, m'a surpris. Il m'a dit, « Ce n'est pas à moi qu'il faut demander, c'est à lui. » Puis il a montré le ciel. Maintenant, plusieurs années plus tard, je suis dans ce même bureau. Quand j'y entre, je lève la tête et je me souviens de Frère Faust et qu'il m'a enseigné par l'exemple comment aider les gens qui se sentent écrasés par leur appel. Trouver le moyen de leur donner la confiance nécessaire pour s'adresser au Maître. S'ils suivent votre conseil, ils trouveront la force dont ils ont besoin. Et plus encore. De nombreuses fois, le Seigneur vous a donné le moyen de trouver la force, le courage et la détermination. Il savait à quel point vous en auriez besoin pour le servir. Cela a pu se produire, comme pour moi, quand vous êtes retrouvé avec d'autres détenteurs de la prêtrise à dire à haute voix, « C'est pourquoi, ô vous qui vous embarquez dans le service de Dieu, veillez à le servir de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces, afin d'être innocent devant Dieu au dernier jour. Une fois que vous étiez engagé à vivre à ce niveau élevé et que vous aviez réussi, le Seigneur Le Seigneur édifie en vous la confiance et la force dont vous auriez besoin au moment où vous seriez appelé à servir une cause supérieure à votre intérêt personnel. J'avais été appelé à défendre mon pays. Nous n'étions pas en guerre alors, mais je partais pour un service inconnu, sachant que j'aurais à donner tout ce que j'avais, et peut-être ma vie. J'ai levé la main droite en même temps que les autres pour m'engager à défendre mon pays avec foi, fidélité et obéissance, disant, j'accepte librement cet engagement, sans arrière-pensée et sans intention de m'y soustraire. Je m'acquitterai bien et fidèlement des devoirs de l'office que je suis sur le point de recevoir. Que Dieu me vienne en aide. Je sais que le pouvoir de tenir cette promesse que j'ai tenue a grandi en moi depuis le temps où j'étais diacre. Durant mes premières années dans la prêtrise, j'ai assisté de nombreuses fois à des réunions de départ de missionnaires. Il y a maintenant tant de gens dignes de l'appel à servir qu'on ne les laisse faire qu'un bref discours à la réunion de Sainte-Seine avant leur départ. Mais il y avait alors toute une réunion consacrée aux missionnaires qui partaient. Il y avait toujours des intermèdes musicaux. Je me souviens toujours de ce que j'ai ressenti quand un quartet d'anciens missionnaires a chanté. J'irai où tu veux que je sois, Seigneur. Puis il y a eu les paroles d'engagement, je dirai les mots que tu mets dans mon cœur, et finalement, ce que tu voudras, je serai. J'avais alors, comme je l'ai maintenant, la conviction que vous et moi faisons réellement la promesse de servir ainsi dans la prêtrise. Nous trouvons de la joie à aller là où le Seigneur veut que nous servions. Nous recevrons la révélation pour prononcer les paroles de Dieu, pour inviter les enfants de notre Père Céleste à être transformés par l'expiation et dignes de retourner vivre auprès de lui. Et j'ai ressenti alors, comme je le fais maintenant, que notre service fidèle lui permettra de changer notre cœur et nous rendra dignes d'avoir sa compagnie et de le servir éternellement. Je vous témoigne que si nous nous donnons entièrement au service de la prêtrise, le Seigneur nous donnera le courage dont nous avons besoin et l'assurance qu'il nous accompagne et que des anges nous soutiendront. Je témoigne que nous sommes appelés de Dieu. Cette Église est la sienne et sa prêtrise est éternelle. Je suis témoin que le président Monson détient toutes les clés de la prêtrise pour la terre. Au nom de Jésus-Christ, amen.
You've seen a witness tonight of the strength.
Vous avez été témoin ce soir de la force des deux conseillers dans cette première présidence. Je me tiens devant vous pour déclarer que la première présidence est unie sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous rappelons que l'émission du Cœur du Tabernacle sera diffusée de 9h30 à 10h demain matin. La session du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le Cœur de la Prêtrise du Centre de formation des missionnaires de Provo, de la belle musique qu'il a interprétée et les orateurs de leurs messages inspirants. Je vais maintenant remercier tout spécialement ce cœur missionnaire. J'ai une expérience qu'ils trouveront sans doute intéressante, ainsi que vous. J'avais reçu un appel désespéré du centre de formation. On me disait, Frère Monson, j'ai un missionnaire qui va rentrer chez lui et il n'y a rien qui peut l'empêcher d'arrêter. Mais ça s'est déjà produit. Quel est le problème? Il dit qu'il a été appelé dans une mission espagnole et il est absolument certain qu'il ne pourra pas apprendre l'espagnol. J'ai dit, mais j'ai une suggestion à lui faire. Demain matin, demandez-lui d'assister à la classe de ceux qui partent au Japon.
And then have him report to you.
Et ensuite, faites-lui faire son rapport à midi précise. Le Le matin suivant, je me demandais s'il allait être appelé. Il l'appelait à 10 heures. Il a dit, le jeune homme est avec moi en ce moment. Et il veut que vous sachiez qu'il est absolument certain qu'il peut apprendre l'espagnol. Quand il y a la bonne volonté, il y a un moyen de réussir. Donc c'est le chœur qui chantera à la fin. Le peuple du monde, écoutez donc. Et c'est Keith R. Edwards des 70 qui fera la prière de clôture. Tandis que je vais vous parler ce soir, vraiment, vous êtes un sacerdoce royal réuni dans de nombreux endroits. C'est très vraisemblablement la plus grande assemblée de détenteurs de la prêtrise de tous les temps. Votre dévouement à vos appels sacrés est inspirant. Votre désir d'apprendre votre devoir est évident. La pureté de votre âme rapproche le ciel de vous et de votre famille. Beaucoup de régions du monde connaissent des difficultés économiques. Des entreprises font faillite, des emplois se perdent et des investissements sont en danger. Nous devons nous assurer que les gens dont nous avons la responsabilité ont à manger, des vêtements et un toit. Quand la prêtrise de l'Église travaille dans l'unité pour faire face à ces situations difficiles, il se produit des événements quasi miraculeux. Nous exhortons tous les saints des derniers jours à être prudents dans leurs projets, à être modestes dans leur mode de vie, à s'abstenir de contracter des dettes excessives ou non nécessaires. C'est de cette manière que les affaires financières de l'Église sont traitées, car nous sommes bien conscients que votre dîme et autres dons ne sont pas versés sans sacrifice et sont des fonds sacrés. Faisons de notre foyer un havre de droiture, un lieu de prière, une demeure d'amour, afin de mériter les bénédictions que seul notre Père Céleste peut nous donner. Nous avons besoin qu'il nous guide dans notre vie quotidienne. Cette grande foule possède le pouvoir de la prêtrise et la capacité de se tourner vers les autres et de leur faire connaître l'Évangile glorieux. Comme cela a été dit, nous avons les mains nécessaires pour faire sortir les autres de l'autosatisfaction et de l'inactivité. Nous avons le cœur qu'il faut pour servir fidèlement dans nos appels de la prêtrise et ainsi en inspirer d'autres à marcher à un niveau plus élevé pour éviter les marécages du péché qui menacent d'engloutir tant de gens. Oui, la valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. Nous avons le grand privilège, armé de cette connaissance, d'apporter le changement dans la vie d'autrui. Ces paroles d'Ézéchiel pourraient s'appliquer à nous tous qui suivons le Sauveur dans cette œuvre sacrée. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Comment pouvons-nous mériter l'accomplissement de cette promesse? Qu'est-ce qui nous qualifiera pour recevoir cette bénédiction? Existe-t-il un guide à suivre? Je vous suggère de prendre en compte 3 impératifs. Ils s'appliquent aux diacres comme aux grands prêtres. Ils sont à notre portée. Notre Père Céleste, dans sa bonté, nous aidera dans nos efforts. Premièrement, apprenez ce que vous devez apprendre. Deuxièmement, faites ce que vous devez faire. Et troisièmement, soyez ce que vous devez être. Parlons de ces 3 objectifs afin d'être des serviteurs utiles aux yeux de notre Seigneur. Premièrement, apprenez ce que vous devez apprendre. L'apôtre Paul a indiqué l'urgence qu'il y a à apprendre. Il a dit aux Philippiens, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et il a dit aux Hébreux, « Rejetons le péché et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur l'exemple de Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Stephen L. Richards, qui a servi pendant de nombreuses années au Collège des 12 apôtres et dans la première présidence, s'est souvent adressé aux détenteurs de la prêtrise et a souligné sa philosophie à son sujet. Il a déclaré, « On définit souvent la prêtrise comme le pouvoir de Dieu délégué à l'homme. Je pense que cette définition est exacte. Mais pour des raisons de commodité, je préfère définir la prêtrise en termes de service. Et je l'appelle fréquemment le plan parfait du service. » Fin de citation. Je le fais parce qu'il me semble que ce n'est qu'en utilisant le pouvoir divin conféré aux hommes qu'ils peuvent espérer prendre conscience de toute l'importance et de toute la vitalité de cette dotation. C'est un instrument de service, et l'homme qui ne l'utilise pas risque de le perdre, car la révélation nous dit clairement que celui qui le néglige ne sera pas jugé digne de demeurer. Fin de citation. Harold Bailey, 11e président de l'Église et l'un des plus grands pédagogues de l'Église, a exprimé cette recommandation en termes faciles à comprendre. Il a dit, « Voyez-vous, quand un homme devient détenteur de la prêtrise, il devient un agent du Seigneur. Il doit envisager son appel comme le fait d'être au service du Seigneur. » Fin de citation. Certains d'entre vous sont peut-être timides par nature ou se considèrent comme incapables d'accepter un appel. Souvenez-vous que cette œuvre n'est pas seulement la vôtre ou la mienne, c'est l'œuvre du Seigneur, et quand nous sommes à son service, nous avons droit à l'aide du Seigneur. Souvenez-vous que le Seigneur façonne le dos pour qu'il porte le fardeau dont il est chargé. Une salle de classe peut être intimidante quelquefois, mais l'enseignement le plus efficace a parfois lieu ailleurs que dans la chapelle ou dans la salle de classe. Je me souviens bien que vers cette époque de l'année, il y a quelques années, les détenteurs de la prêtrise d'Aaron attendaient impatiemment une sortie annuelle commémorant le rétablissement de la prêtrise d'Aaron. Par carentier, les jeunes gens de notre pieu se rendaient à 150 km de là, jusqu'au cimetière de Clarkson, où nous recueillons sur la tombe de Martin Harris, l'un des trois témoins du Livre de Mormon. Tandis que nous entourions la belle stèle de granit qui marque sa sépulture, un membre du Grand Conseil, frère Rudd, évoquait la vie de Martin Harris, lisait son témoignage dans le Livre de Mormon, puis rendait son témoignage personnel de la vérité. Les jeunes gens l'écoutaient profondément attentifs, touchaient la tombe de granit et méditaient sur ce qu'ils avaient entendu et ressenti. On déjeunait dans un parc de Logan. Ensuite, les jeunes gens s'allongeaient sur la pelouse du temple de Logan et contemplaient ces flèches élancées. Souvent, de beaux nuages blancs couraient derrière les flèches, poussés par une douce brise. Il y avait un enseignement sur la raison d'être des temples. Les alliances et les promesses devenaient beaucoup plus que des paroles. Le désir d'être digne, de franchir les portes du temple, s'instillait dans ses cœurs jeunes. Les cieux étaient très proches. Ils apprenaient ce qu'ils devaient apprendre. Deuxièmement, faites ce que vous devez faire. Dans une révélation sur la prêtrise donnée par la prière de Joseph Smith, le prophète, qui est aujourd'hui la 107e section de Doctrine et Alliance, on passe de l'apprentissage à l'action. On lit « C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. » Chacun des détenteurs de la prêtrise qui assiste à cette session ce soir a un appel à servir, à consacrer tous ses efforts à la tâche qui lui est attribuée. Il n'y a pas de tâche subalterne dans l'œuvre du Seigneur, car chacune a des conséquences éternelles. John Taylor nous a lancé cet avertissement. Si vous ne magnifiez pas votre appel, Dieu vous tiendra pour responsable de ceux que vous auriez pu sauver si vous aviez fait votre devoir. Et qui d'entre nous peut se permettre d'être responsable du retard de la vie éternelle d'une âme humaine? Si apporter le salut à une seule âme donne une grande joie, alors comme doit être terrible le remords de ceux qui, par manque d'effort, ont permis qu'un enfant de Dieu ne soit pas averti et ne soit pas aidé de sorte qu'il doit attendre qu'un serviteur de Dieu digne de confiance se présente. » Fin de citation. Le vieil adage reste vrai. Fais ton devoir, c'est le mieux. Laisse le reste à Dieu. La plupart du service que rendent les détenteurs de la prêtrise s'accomplit dans la discrétion et sans fanfare. Un sourire amical, une poignée de main chaleureuse, un témoignage sincère de la vérité peuvent donner du courage, changer la nature d'une personne et sauver une âme précieuse. Un exemple de ce service est donné par l'expérience missionnaire de Julius et Dorothy Fusek, qui ont été appelés à faire une mission de 2 ans en Pologne. Frère Fusek était né en Pologne. Il parlait polonais. Il aimait les Polonais. Sœur Fusek était anglaise et savait peu de choses de la Pologne et de ses habitants. Faisant confiance au Seigneur, ils se sont embarqués pour leur mission. Les conditions de vie étaient rudimentaires. Le travail solitaire, la tâche immense. À l'époque, il n'y avait pas de mission organisée en Pologne. La tâche confiée au Fusek consistait à préparer la voie pour qu'une mission soit établie et que d'autres missionnaires soient appelés à servir, que l'Évangile soit enseigné aux gens, que des convertis soient baptisés, que des branches soient établies et des églises construites. Frère et Sœur Fusek ont été désespérés par l'immensité de leur tâche. Pas un instant. Ils savaient que leur appel venait de Dieu. Ils ont prié pour recevoir son aide, puis ils se sont consacrés de tout leur cœur à leur travail. Ils sont restés en Pologne, non pas 2 ans, mais 5. Tous les objectifs que j'ai indiqués plus haut ont été atteints. Russell M. Nelson, Hans Beringer et moi, accompagnés de Frère Fusek, avons rencontré Adam Wopata, ministre du gouvernement polonais, qui nous a dit, je cite, « Votre église est la bienvenue ici. Vous pouvez construire vos églises, vous pouvez envoyer vos missionnaires, vous êtes les bienvenus en Pologne. » Des paroles venant des cieux. Et il ajoutait, désignant Julius Fusek, « Cet homme a bien servi votre église. Vous pouvez être reconnaissant de son exemple et de son travail. » Fin de citation. Comme les Fusek, faisons ce que nous devons dans l'œuvre du Seigneur. Alors, avec Julius et Dorothy Fusek, nous pourrons nous faire l'écho du psaume. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. celui qui garde Israël. Troisièmement, soyez ce que vous devez être. Paul a conseillé à son cher ami et compagnon de service Timothée, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Mon exhortation est que nous prions tous à propos de nos appels et que nous demandions l'aide divine afin de réussir à accomplir ce que nous sommes appelés à faire. Quelqu'un a dit que le fait qu'un homme reconnaît un pouvoir supérieur ne l'abaisse aucunement. Il faut qu'il cherche, croit, prie et espère qu'il trouvera. Cet effort sincère, accompagné de la prière, trouvera toujours sa réponse. C'est la constitution même de la philosophie de la foi. Les faveurs divines sont accordées à ceux qui les recherchent humblement. Le livre de Mormon contient un conseil qui dit tout. Le Seigneur déclare, « C'est pourquoi quelle sorte d'homme devriez-vous être. En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » Et quelle sorte d'homme était-il? Quel exemple a-t-il donné dans ce service? Le 10e chapitre de Jean nous apprend, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, s'enfuit parce qu'il est mercenaire et il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Mes frères, puissions-nous apprendre ce que nous devons apprendre, faire ce que nous devons faire, et être ce que nous devons être. Si nous le faisons, les bénédictions du ciel nous seront accordées. Nous saurons que nous ne sommes pas seuls. Dieu qui remarque le passereau qui tombe nous reconnaîtra à sa façon. Il y a quelques années, j'ai reçu une lettre d'un ami de longue date. Il y rendait témoignage. Je vais vous en faire part ce soir, car elle illustre la force de la prêtrise chez quelqu'un qui a appris, a fait ce qu'il devait faire et a toujours essayé d'être ce qu'il devait être. Voici quelques extraits de la lettre de mon ami, Theron W. Borup, qui est décédé il y a 3 ans, à l'âge de 90 ans. À l'âge de 8 ans, quand j'étais baptisé, dit-il, et que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'étais très impressionné par le fait que je devais être bon et capable d'avoir l'aide du Saint-Esprit toute ma vie. On m'a dit que le Saint-Esprit ne tenait que bonne compagnie, et que quand le mal entrerait dans notre vie, il partirait. Ne sachant pas quand j'aurais besoin de ces murmures et de cette direction, j'essayais de vivre de manière à ne pas perdre ce don. Une fois, a-t-il dit, cela m'a sauvé la vie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'étais mitrailleur dans un bombardier B-24 en opération dans le Pacifique Sud. Un jour, on nous a annoncé qu'on allait tenter le plus grand raid de bombardiers jamais fait pour détruire une raffinerie de pétrole. Les murmures de l'esprit m'ont dit que je serais affecté à ce raid et que je ne reviendrai pas. À l'époque, j'étais le président du groupe de saints des derniers jours. Nous avons été pris dans un combat acharné au-dessus de Bornéo. Notre avion a été touché par des avions ennemis et a pris feu. Le pilote nous a dit de nous préparer à sauter. J'ai sauté le dernier. Les pilotes ennemis nous ont tiré dessus tandis que nous flottions sur la mer. J'avais du mal à gonfler mon radeau de sauvetage J'ai fait le bouchon sur l'eau et j'ai commencé à me noyer et à perdre connaissance. Je suis revenu à moi et j'ai crié, « Oh, secours, mon Dieu !» J'ai essayé de gonfler le radeau et j'ai réussi. À peine était-il assez gonflé pour me porter que je me suis hissé à bord, trop épuisé pour bouger. Pendant 3 jours, nous avons flotté en territoire ennemi. Il y avait des navires tout autour et des avions au-dessus. Qu'il n'ait pas pu voir un groupe jaune de radeaux sur la mer bleue reste un mystère. Une tempête s'est levée. Des vagues de 10 mètres de haut sont déchirées nos radeaux. 3 jours ont passé sans nourriture ni eau. Les autres m'ont demandé si je priais. J'ai répondu que oui et qu'on allait nous secourir. Le soir, nous avons vu notre sous-marin. Nous croyons qu'il venait à notre secours, mais il a poursuivi sa route. Le lendemain matin, il a fait la même chose. Nous savions que c'était le dernier jour qu'il serait dans les parages. Alors le Saint-Esprit m'a murmuré, « Tu as la prêtrise. Commande au sous-marin de vous recueillir. » Barab dit, « J'ai fait cette prière silencieuse au nom de Jésus-Christ et par le pouvoir de la prêtrise. Fais demi-tour et recueille-nous. » Quelques minutes plus tard, il était à côté de nous. Quand nous avons été sur le pont, le commandant nous a dit, « Je ne sais pas comment nous vous avons trouvé, car nous n'étions pas à votre recherche. » Mais moi, je le savais. Je vous témoigne que l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est vraie. Le Seigneur est à la barre. Puissions-nous toujours le suivre. C'est là ma prière sincère. Et je la prononce au nom de Jésus-Christ. Amen.
Heaven's voice through every land that all may rejoice.
Our Holy Father,
Saint-Père, nous te remercions d'avoir été choisi pour te servir, pour porter l'Évangile à tous. Nous te remercions de nous avoir confié les possibilités et les bénédictions de l'Évangile et tout. Et nous reconnaissons devant toi nos faiblesses, nos manquements, et nous te demandons de nous aider à être à la hauteur de notre appel. Nous te demandons de nous bénir, de nous accorder d'apprendre ce que nous devons apprendre, de faire ce que nous devons faire, et d'être ce que nous devons être. Bénis-nous dans notre apprentissage, afin que nous puissions honorer nos mères, nos femmes, et que nous puissions honorer notre prêtrise et les devoirs qui sont attachés, afin que nous puissions servir et administrer la Sainte Cène et les ordonnances de la prêtrise en toute dignité. Accorde-nous d'être un sacerdoce royal et accorde-nous d'être à notre place afin de lever là où nous sommes, édifier les faibles et d'être tout ce que nous pouvons être, ce que nous devons être. C'est là notre prière avec notre remerciement et notre reconnaissance pour la confiance que nous témoignons, nous accordons la prêtrise. Au nom de Jésus-Christ, Amen.